Radio Okapi.
La ville de Bukavu totalise en ce mois de février 2026 une année depuis son occupation par la rébellion AFC M23. Un an après, les conséquences humanitaires, sociales et économiques continuent de peser lourdement sur la population, particulièrement sur la jeunesse. Dans ce contexte, le Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu est en mission de plaidoyer à Kinshasa afin d'alerter sur la situation humanitaire dans la région et porter la voix des jeunes. La structure prévoit, avant la fin de ce mois de février, l'organisation d'une table ronde dans la capitale congolaise. Cette rencontre réunira des jeunes venus des différentes provinces, y compris de l'est du pays, ainsi que des notables et des acteurs engagés. Au cœur des échanges, le rôle de la jeunesse dans le processus de rétablissement de la paix, la promotion de la cohésion sociale et la restauration de l'autorité de l'État. Quelle est aujourd'hui la situation de la jeunesse du Sud Kivu, un an après l'occupation de Bukavu, chef-lieu de la province et d'autres entités de la région par la rébellion? Quel rôle les jeunes doivent-ils jouer dans la reconstruction et le retour durable de la paix? Nous en parlons dans ces magazines 100% jeunes avec nos invités Pascal Ntambuka, président du conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu, Benga Ekongo Sanila, vice-présidente, John Kabonderwa, trésorier, et Dieu merci Bougiriri, conseiller en charge de l'entrepreneuriat au sein de cette structure. Cette émission est mise en onde par Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa. Coordination et présentation grâce à Mzati. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'avoir choisi Radio Okapi pour vous informer. Ce magazine 100% jeune aborde aujourd'hui la situation de la jeunesse du Sud Kivu, dont certaines entités sont sous le contrôle de la rébellion AFC M23 depuis une année. Dans ces studios, nous recevons les responsables du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu, actuellement en mission de plaidoyer à Kinshasa.
L'invité.
Pascal Ntambuka, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio de la Paix, la Radio Okapi.
Alors, vous êtes président du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu. Bienvenue à Radio Okapi, surtout dans ces magazines des jeunes, 100% jeunes.
Merci beaucoup pour ce beau cadre, mais également pour l'émission 100% jeunes.
Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'une très grande délégation. Déjà, je vois la vice-présidente qui est là, Mbenga Ekongo Sanela. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Radio Okapi.
Merci beaucoup.
Et puis, nous avons aussi le trésorier du Conseil provincial de la jeunesse, John Kabonderwa. Bonjour, John.
Bonjour.
Et ensuite, Dieu merci, Boudjiriri, qui est conseiller en charge d'entrepreneuriat. Dieu merci, bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup. Je salue également les auditeurs et auditrices de la Radio Okapi qui nous suivent en ce moment. Voilà.
La première question, Président, je reviens à vous, Pascal Ntambuka. Ça fait pratiquement une année depuis que la ville de Bukavu est sous occupation de la rébellion AFC M23. Mmh. Une année après, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la vie des jeunes sud-kivusiens?
Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, c'est depuis le 14 février 2025. Jusqu'aujourd'hui, en tout cas, il y a la rébellion à Bukavu, depuis l'arrivée de la rébellion. C'est vraiment la vision de la jeunesse qui a été brisée, tous les projets des jeunes. Et ce que nous pouvons dire en tant que conseil provincial de la jeunesse, il y a vraiment plusieurs initiatives du point de vue gouvernemental. Le gouvernement qui avait déjà lancé les différentes activités auxquelles d'ailleurs prenait part la jeunesse pour voir comment la jeunesse peut également contribuer au développement de la province. Alors toutes ces différentes initiatives et même le conseil que vous voyez ici, le conseil provincial de la jeunesse qui était d'ailleurs en début de son mandat, a eu vraiment des perturbations après la prise par la rébellion de la ville de Bukavu.
Et donc, en plus bref, la jeunesse de Bukavu, pour le moment, ne se porte pas bien.
Effectivement, la jeunesse ne se porte pas bien, mais elle garde espoir, vu les différents efforts diplomatiques du gouvernement, du chef de l'État. La jeunesse garde espoir avec la résolution 2773, avec différentes démarches, et nous espérons, en tout cas, nous n'allons pas croiser les bras. Nous sommes une jeunesse debout, une jeunesse consciente, et nous pensons que nous devons être impliqués, pas tout simplement être impliqués, mais participer et prendre part aux différents processus de rétablissement de la paix, parce que c'est la jeunesse qui est la toute première victime de tout ce qui se passe. Et nous pensons qu'il est temps, en tout cas, que la jeunesse prenne conscience de tout ce qui nous arrive. Nous sommes nés dans la guerre, nous y avons grandi, mais nous espérons que nous n'allons pas laisser la même situation aux générations qui viendront après nous. Et c'est pourquoi nous sommes une jeunesse consciente du développement, consciente de notre rôle, bien évidemment, de construire, parce que nous sommes une couche bien importante de la population, plus de 75% de la population. Et donc, nous espérons que par différentes démarches et initiatives que nous sommes en train de mettre en place, et surtout que le gouvernement prend à cœur la question de la jeunesse, nous espérons qu'il y aura en tout cas une suite favorable, parce que depuis un certain moment, c'est la jeunesse qui fait parler, c'est la jeunesse qui parle, et donc la jeunesse est consciente de son rôle dans le rétablissement de la paix.
Alors ça, c'est Pascal Ntambuka qui nous fait un état des lieux de la jeunesse du Sud Kivu. Oui, la jeunesse ne se porte pas bien, comme d'habitude, mais elle garde espoir. C'est ce que nous pouvons retenir de sa première intervention. On peut aussi quand même savoir la situation de la jeune fille. Et là, la question s'adresse à Sanela. La situation de la jeune fille du Sud Kivu, particulièrement celle qui vit dans les entités sous contrôle de la rébellion AFC M23.
Alors, pour parler de la situation de la jeune fille dans les zones occupées, je dirais que les jeunes filles passent par différentes réalités et sont exposées à plusieurs types de vulnérabilités à la fois. Vous savez, quand on est en guerre, on parle des violences sexuelles. Ce sont les jeunes filles qui sont au centre de cela. Les jeunes filles, et bon, j'aime parler des jeunes femmes aussi, hein, parce qu'il y a une certaine nuance. Nous parlons des jeunes filles et des jeunes femmes qui sont exposées à toutes ces vulnérabilités. D'abord, les violences sexuelles, comme je l'ai dit, dont les femmes souffrent depuis plus de 30 ans. Il y a des jeunes filles qui sont nées de femmes qui ont été victimes de viols. Il y a celles qui ont elles-mêmes vécu ces atrocités, si je peux les appeler comme ça. Et il y a celles qui ont décidé de s'exprimer. J'encourage beaucoup ces jeunes femmes, hein. Là, je suis toujours dans le cadre des violences sexuelles. J'encourage beaucoup ces jeunes femmes qui ont le courage de prendre la parole. J'ai parlé des différentes réalités, différents types de vulnérabilités. Pour ne pas me limiter à ce qu'il y a comme violence, je parlerai aussi de celles qui sont exposées aux difficultés relatives à l'abandon de leur parcours scolaire. Lors de la prise de Bukavu, beaucoup de jeunes filles se sont déplacées. Beaucoup de jeunes filles ont dû mettre pause, comme on dit, à leurs études. Beaucoup de jeunes filles ont vu leur perspective d'avenir dans une incertitude. Et c'est ce que personnellement j'ai vécu, je tiens à le souligner. Et je sais que beaucoup de jeunes femmes passent par là. Mais il y a ces jeunes femmes aussi qui sont exposées à tout type de manipulation due à leur vulnérabilité socio-économique. Il y a des femmes qui avaient des activités génératrices de revenus. Il y a des femmes qui avaient leur projet, leur business, qui ont dû laisser tout ça derrière. Et ça, ça brise aussi. Et ça expose à tout type de vulnérabilité, manipulation, utilisation. Mais il y a aussi ces femmes qui sont un mélange de tout ça et que je préfère mettre en avant. Ces femmes, parce que malgré tout ce par quoi ces femmes passent, il y a celles qui décident de parler, décident de faire quelque chose. Et ça, ce sont les différentes réalités. Mais le point commun, c'est que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, il y a un certain dépassement de ces réalités. Nous vivons, comme le président l'a souligné dans son intervention, nous avons vécu cette guerre depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, ces jeunes femmes essayent un peu de se relever. Il y a des jeunes femmes qui essaient un peu de se relever. Alors, ces différentes réalités vécues par les femmes doivent vraiment être mises en avant. Vécues par les jeunes femmes doivent vraiment être prises au sérieux. Parce que si on n'y met pas l'attention que ça mérite, c'est carrément l'avenir de la province qui est en jeu. Parce que la province ne peut pas se construire sans les femmes. La province ne peut pas se construire sans les jeunes filles. Quand je parle de jeunes filles, je parle de la fille dans tous ses états. Je parle aussi des enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous devons vraiment travailler sur ça. Faire comprendre que la jeune femme a son rôle à jouer dans la reconstruction de notre province. Donc, c'est important de souligner ça et de prendre en compte toutes ces différentes réalités afin de travailler ensemble sur Voilà la conception ou du moins la réflexion afin de trouver des solutions, si je peux dire ça comme ça.
Et comment, au niveau du Conseil provincial de la jeunesse, vous vous organisez localement pour accompagner ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui sont justement en difficulté? Et vous avez parlé notamment des cas des violences sexuelles. Quel est le rôle que vous jouez d'abord localement? Parce que je sais que à Kinshasa, vous êtes en mission et nous allons en parler dans cette émission. Mais au niveau du sud qui vous ouvre à aujourd'hui, ouvrir à les chefs-lieux provisoires de la province, il y a des entités qui ne sont pas encore occupées par la rébellion. Comment le Conseil provincial de la jeunesse accompagne ces jeunes femmes?
Merci beaucoup. Alors, pour accompagner ces jeunes femmes, il faut d'abord comprendre ce par quoi elles passent. Nous, le Conseil provincial, les accompagnons en sensibilisant contre la violence. Quand on parle de violence, il faut très bien comprendre ce que c'est la violence. La violence, ce n'est pas seulement, voilà, des groupes armés qui tuent des gens. La violence, c'est l'atteinte à la personnalité d'une personne. Et quand on fait ces campagnes de sensibilisation contre la violence et pour la paix, on intègre cela. Une personne qui orchestre ce genre de choses, des violences basées sur le genre, il doit comprendre qu'en fait, quand il fait ça ou quand cette personne fait cela, elle participe à tout ce qu'il y a comme destruction. À travers les campagnes de sensibilisation contre les violences, nous insistons sur le fait de mettre fin à ces violences basées sur le genre. Nous avons organisé certaines campagnes de sensibilisation. L'année passée, nous avons fait une campagne numérique, en ligne à l'occasion de la Journée internationale de la femme, pour sensibiliser non seulement les femmes, parce que on ne peut pas toujours aller dans le sens de la victime. Nous, les femmes, nous avons aussi notre rôle à jouer dans ce qu'il y a comme campagne contre les violences sexuelles. Nous devons nous mettre ensemble et nous battre contre cela. Nous avons continué à ouvrir à travers les différentes activités que nous faisons. Vous savez, l'aspect de violence sexuelle, c'est un aspect qui peut être évoqué dans tous les sujets. Nous organisons des activités sur la cohésion sociale, qui parlent de cohésion sociale, implique aussi le bon vivre ensemble. Et nous insérons toujours cet aspect-là. Disons que c'est un sujet qu'on a toujours à la bouche. Dans tout ce que nous organisons, nous essayons aussi de l'autre côté de capaciter les femmes. Comme je l'ai dit au début, ce qui expose les femmes à ce genre de choses, c'est aussi la vulnérabilité économique. Nous essayons aussi de rendre les femmes autonomes pour qu'elles puissent être capables de se prendre en charge. Et avec ça, nous étions déjà en train d'organiser une formation en obtention de microfinance pour les jeunes femmes pour la ville de Baraka. Nous l'organisions pendant la période où les rebelles sont arrivés dans la ville d'Ouvira. Mais c'est quelque chose que nous avons toujours en tête. Donc nous nous sommes donné cette mission de travailler, moi en tant que vice-présidente en charge du genre, de travailler sur l'autonomisation de la femme et la lutte contre la violence. Et ici, je ne vais pas parler des violences sexuelles. Je préfère qu'on puisse parler des violences parce que ça implique tout ça. La violence, et nous citons toujours cet aspect du genre, cet aspect de violence sexuelle dans tout ce que nous sommes en train de faire.
Alors, je reviens au président Pascal Ntambuka. Est-ce que dans toutes les initiatives de la jeunesse, dans toutes les actions que vous menez, vous associez les autorités provinciales?
Effectivement, nous travaillons toujours en commun accord avec nos autorités au niveau de la province, au niveau provincial. Et nous avons d'ailleurs plusieurs initiatives que nous étions déjà en train de lancer avec le gouvernement. Mais il y a toujours des perturbations, comme à Ouvira, c'est encore perturbé. C'était le même cas à Bukavu. Donc, il y a certainement de la lenteur. Mais ce n'est pas dû à nous, mais en tout cas à la circonstance et surtout à la présence de la rébellion.
La question à John Kabonderoy, qui est trésorier du Conseil provincial de la jeunesse. Avec cette situation, est-ce que votre structure fonctionne normalement?
Avec cette situation, vraiment, c'est une situation qui a, au fait, divisé, permettez les termes, mais je peux dire que d'une manière de collaboration, lorsqu'une équipe est unie, une équipe est toujours ensemble, et lorsque une équipe est toujours ensemble, ils travaillent dans l'unité, et ils essaient quand même de se partager les idées par rapport aux initiatives, mais aussi par rapport aux différents projets. mais permettez de les dire que avec cette guerre, vraiment, nous ne sommes plus ensemble. Il y a ceux qui sont résilients et ils se sont dit qu'ils vont d'abord rester dans la ville de Bukavu. Mm-hmm. Parce qu'aussi se déplacer de la ville de Bukavu, aller à Uvira, ça demande aussi des moyens.
Exactement.
Nous n'avons pas, en fait, l'appui financier du côté du gouvernement pour notre prise en charge. Alors, moi d'abord, ça dépend d'abord de la situation familiale, mais aussi la situation aussi sociale vis-à-vis de la famille et consorts. Moi, je suis natif d'Uvira. Si aujourd'hui, je suis à Uvira, et donc, je suis d'abord à la maison. Il y a ceux qui sont restés à Bukavu, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas sortir. Ce n'est pas parce qu'ils veulent rester avec les rebelles, mais ils n'ont pas où aller. Et pour se déplacer, il faut des moyens. On a essayé d'amener des plaidoyers pour qu'on essaie de déplacer ceux qui sont à Bukavu, pour qu'on ait quand même une équipe solide, pour qu'on soit ensemble, pour qu'on ait quand même le temps de réfléchir ensemble par rapport aux différents projets de la jeunesse. Mais avec la situation sécuritaire, ça vraiment fait à ce que nous ne soyons pas ensemble. Et pour nous, ça fragilisait l'équipe. Ça fragilisait l'équipe sur le plan d'abord communicationnel. Bien sûr, ceux qui sont à Bukavu, on ne sait pas ils sont dans quoi, bien qu'on ait en contact avec eux. Et nous aussi, où nous sommes à Uvira, on essaie de mener des plaidoyers pour qu'on les déplace. Mais vraiment, avec cette distance, ça nous fragilise, surtout sur le plan communicationnel. Ça ne nous aide pas à mieux avancer.
Et là, on peut comprendre qu'il n'y a pas seulement les conseils provinciaux, même d'autres structures des jeunes évoluant au sud Kivu. Ceux-là, ces jeunes-là qui sont restés à Bukavu, est-ce qu'ils ne s'organisent pas aussi pour justement accompagner les jeunes qui sont victimes principales de la situation?
Beaucoup de ces jeunes-là, ils ont dit quand même opter l'observation. Ils se sont dit que non, nous sommes là, nous serons résilients, nous allons bien sûr mener des actions de résistance dans la ville, mais pas vraiment être beaucoup plus visible, parce que si vous menez des actions et vous êtes beaucoup plus visible, il y a des rebelles qui vont vous poursuivre. Mais nous encourageons toujours ces jeunes qui sont restés dans les zones occupées. Nous sommes des quais avec eux. Et nous, de notre côté, on essaie de se battre. On essaie de mener des plaidoyers au gouvernement national pour qu'il y ait le rétablissement de la paix au site Kivu et pour qu'on ait l'ensemble de toute la province sous contrôle du gouvernement et sous contrôle de notre armée.
Les FARDC,
bien sûr.
Alors, Dieu merci, Boudjiriri, vous êtes conseiller en charge de l'entrepreneuriat. Est-ce que aujourd'hui, avec la situation que nous connaissons tous au sud Kivu, particulièrement à Bukavu et d'autres entités sous occupation de la rébellion FCM23, on peut encore parler de l'entrepreneuriat des jeunes?
Merci beaucoup encore une fois pour la parole m'accordée. Je dirais que dans tout ça, ce sont les jeunes entrepreneurs qui sont beaucoup plus victimes. Parce que pourquoi? Ils ont perdu leurs biens, ils ont vu leur entreprise tomber en faillite parce qu'il n'y a plus d'activités qu'ils peuvent continuer à mener dans une zone sous occupation. Et s'ils continuent à le faire, ils n'ont pas où vendre les marchandises. Par exemple, un jeune entrepreneur qui était en train peut-être de travailler dans un domaine quelconque et qui vendait ses marchandises à Uvira. Mais pour le moment, la route est coupée. Celui de Bukavu ne peut plus aller à Uvira. Voilà que lui-là, il est beaucoup plus impacté. Et quand nous étions à Bukavu, nous étions déjà dans notre deuxième phase du projet OZEP. OZEP qui est un projet Oser Entreprendre pour une paix durable, avec la coopération suisse et la coopérative Nguvu ya Ushindi. Nous étions déjà arrivés dans 6 territoires dans la province du Sud Kivu. Nous étions à Walungu, nous étions à Kale, nous étions à Kabare, à Idjwi, dans la ville de Bukavu. Et nous avons clôturé ces projets avec beaucoup de difficultés. Et nous étions en train déjà d'espérer commencer avec la troisième phase du projet Oser Entreprendre pour une paix durable, qui pourrait déjà toucher la ville de Kamituga, le territoire de Shabunda, le territoire de Fizi, Uvira et partout là. Et alors, il faut dire aussi que ces jeunes entrepreneurs, bien qu'ils soient dans la ville ou dans des villes sous occupation, ils continuent quand même à travailler et à servir selon le contexte dans lequel ils sont en train de traverser pour le moment, à Bukavu, dans les territoires à Calais, à Kabare et aussi voilà à Walungu. Mais je pense que, comme je l'ai dit, les jeunes entrepreneurs, en tout cas, sont en train de traverser beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de bailleurs de fonds. Les banques sont fermées. Il y a des bailleurs de fonds qui venaient pour former les jeunes entrepreneurs, les équiper, mais également les financer. Mais les jeunes entrepreneurs, pour le moment, qui n'ont pas de financement, ne savent plus comment décoller. Imaginez aussi, dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, il y a beaucoup de jeunes intellectuels, des jeunes qui ont fini l'université, des licenciés, et ceux qui ont même des masters, mais qui n'ont pas d'emploi, mais ils ont choisi l'entrepreneuriat. Et la guerre a frappé sur nos portes, mais ces jeunes-là, ils se sont vus bloqués, ils ne savent quoi faire. C'est pourquoi nous sommes en train d'encourager les efforts diplomatiques du chef de l'État pour mettre fin à cette guerre et que les jeunes entrepreneurs recommencent convenablement et voilà, espérer que leur futur sera meilleur. Et maintenant, pour parler de jeunes à Uvira, Baraka, dans des zones qui ne sont pas sous occupation, il faut aussi signaler que Uvira avait été prise et libérée en un certain moment par l'armée congolaise. Et les jeunes, les entreprises de jeunes à Uvira se sont vus pillés. Les jeunes ont assisté à des pillages systématiques de leurs entreprises, de leur capital humain. Mais également, nous avons perdu beaucoup de jeunes entrepreneurs. Parce que un jeune entrepreneur, quand les rebelles sont entrés et qui étaient peut-être en train de voir comment protéger leurs marchandises, ils sont restés dans la rue, nous avons perdu certains d'entre eux. Mais nous pouvons toujours continuer à parler de l'entrepreneuriat parce que quand nous parlons de la restauration de l'autorité de l'État au Sud-Kivu, ça veut dire que nous devons aussi demander que le gouvernement touche ce côté-là de l'entrepreneuriat des jeunes. Vu que les jeunes n'ont pas d'emploi, et je pense que l'entrepreneuriat va relever ces jeunes entrepreneurs. Voilà un peu par rapport à la situation des jeunes entrepreneurs pour le moment.
Voilà. Est-ce que ces jeunes, quand même, qui sont encore dans les activités malgré la situation, ils sont accompagnés par les autorités provinciales ou alors par d'autres partenaires au niveau de Uvira, par exemple, et de Baraka?
Oui, ils sont accompagnés. D'ailleurs, la fois passée, lorsque le président de la République a organisé la table ronde pour l'emploi et l'entrepreneuriat, nous avons envoyé un jeune entrepreneur qui est venu participer, bien sûr, avec le président du Conseil provincial de la jeunesse à cette table ronde. Et le jeune est parti faire la restitution, même au niveau du gouvernement provincial à Uvira. Et je vois les gouverneurs Jean-Jacques Kouroussi et Jean-Jacques Elakano et notre ministre provincial de la jeunesse, Madame Catherine Tchidjanga Balemba, qui ne cesse d'accompagner aussi les jeunes entrepreneurs et les promouvoir. Nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs à Uvira qui sont en train de fournir des efforts. D'ailleurs, le président, l'actuel président de l'Assemblée nationale, quand il était encore ministre du budget, il était arrivé à Uvira. Et on lui a présenté certains jeunes entrepreneurs et ces jeunes entrepreneurs ont présenté leurs produits. Je me rappelle aussi, il était déjà, après le budget, il était déjà aussi ministre de l'industrie. Et il a visité en tout cas les entreprises de jeunes entrepreneurs et il a quand même essayé d'apporter un plus sur ce qui manquait à ces entreprises de jeunes. Et c'est par là que nous pouvons confirmer et affirmer que les jeunes sont accompagnés par les autorités, mais aussi rappeler que certains jeunes doivent aussi comprendre que la situation n'est pas en tout cas bonne. Ils doivent patienter en fait de voir l'accompagnement durable dans les jours qui vont suivre. Radio Okapi.
À Bukavu. Okapi. Sur 95.3 FM. Okapi.
Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous écoutez le magazine 100% Jeunes sur Radio Capi, la fréquence La Paix. Et aujourd'hui, nous recevons le comité de gestion ou alors les membres du conseil provincial de la jeunesse du Sud-Kivu. Et nous parlons de l'état des lieux de la jeunesse de cette province. Une année après son occupation par la rébellion AFC M23. Et nous devons justement savoir pourquoi ces dirigeants de cette structure se trouvent à Kinshasa. Alors, président, nous voulons savoir, nous, c'est-à-dire les auditeurs, nous voulons savoir pourquoi vous êtes à Kinshasa. Pourtant, vous êtes censé être à Uvira, qui est le chef-lieu provisoire, ou alors à Bukavu, au sud Kivu.
Merci de la question en tout cas. Notre présence à Kinshasa, c'est en fait la poursuite toujours de nos différents objectifs pour arriver à les atteindre. Nous savons que la situation sécuritaire actuelle dans la province du sud Kivu et dans l'est, donc le nord et le sud Kivu, concerne tout le monde. Et nous, les jeunes, nous devons savoir que ce n'est pas une situation qui concerne tout simplement les jeunes originaires de la province du Nord ou du Sud Kivu, mais nous devons savoir que nous avons un grand rôle à jouer. Les jeunes d'Équateur, les jeunes de la Chuapa, de la Chopo, les jeunes de toutes les provinces, nous devons comprendre que ce qui est arrivé au Sud et au Nord Kivu nous concerne également nous en tant que jeunes. Et nous ne devons pas ignorer cela, mais nous devons plutôt être soudés. Voilà la raison pour laquelle nous avons voulu mettre en place cette conférence en format table ronde pour appeler les jeunes à parler même langage, à voir comment nous pouvons jouer notre rôle, nous les jeunes, en ce qui concerne le rétablissement de la paix dans notre province et une paix durable. Parce qu'il y a eu des paix, une paix éphémère, mais en tout cas, on n'a pas eu une paix qu'on peut considérer comme durable. On a eu toujours de l'instabilité, des différents troubles, et cette situation a maintenant bouleversé tous les rêves des jeunes. Voilà pourquoi il ne s'agit pas d'attendre que ça frappe à notre porte pour comprendre que ça brûle chez les voisins. Il faut déjà commencer à comprendre que nous avons un rôle à jouer. C'est nous, la jeunesse, nous devons nous mettre ensemble. C'est pourquoi nous avons préféré organiser cette table ronde en cette date du 27 février. Nous allons l'organiser avec différentes couches des jeunes, pas seulement les jeunes de l'Est, pas seulement les jeunes d'ici du Nord Kivu, mais tous les jeunes, pour parler avec la notabilité, les différentes autorités, nos aînés, pour qu'on comprenne comment nous pouvons mettre fin et que cette situation ne revienne plus jamais. Nous sommes, comme l'ont dit d'ailleurs mes collègues, nous sommes en train d'encourager les différents efforts diplomatiques du chef de l'État. Et vous savez, aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est en train de parler, qui est en train d'agir partout. Vous avez vu, au village des opportunités d'affaires, les jeunes s'expriment. Donc, actuellement, le gouvernement a mis la jeunesse au centre de toute action. Et c'est pourquoi nous devons savoir que même pour le rétablissement de la paix chez nous, c'est nous jeunes, c'est nous qui devons dire non à toute manipulation et ensemble, pour un Congo fort et uni davantage.
Donc, de manière brève, vous êtes à Kinshasa pour organiser cette table ronde qui va réunir tous les jeunes, c'est-à-dire les jeunes de toutes les provinces, parce que la question de l'Est concerne tout le monde, oui. Pas seulement les victimes. Et cette conférence réunira aussi les autorités, pas seulement du Sud Kivu ou du Nord Kivu, mais aussi les autorités, les personnalités d'autres provinces, pour réfléchir ensemble sur le rôle de la jeunesse dans le rétablissement, justement, de la paix, et vous inciter sur les mots durables, de la paix durable. Fait. Oui. Alors, Sanela, c'est quoi, selon vous, de manière résumée, ces rôles? Et ici, j'aimerais quand même que vous puissiez faire comprendre aux jeunes qui ne sont pas du Nord Kivu ou du Sud Kivu, quels sont les rôles que ces jeunes-là doivent jouer pour le rétablissement de la paix durable. Parce que il y en a qui peuvent penser, qui peuvent se dire, ben moi je suis jeune de la province de la Chopo par exemple, je suis à Kisangani, moi je suis jeune de Kananga au Kasai central. Bon, c'est les Sud Kivu et les Nord Kivu qui sont occupés. Qu'est-ce que moi je vais faire, quel rôle que moi je vais jouer pour aider à ce que la paix soit rétablie dans ces provinces-là? Adressez-vous un peu à ces jeunes-là.
Merci beaucoup pour cette question que j'aime beaucoup. Alors, j'aimerais commencer par dire que l'idée qui nous a poussé à lancer cette activité, à organiser cette activité, c'est un rappel à notre hymne national. Au début, on parle d'unis par le sort et unis dans l'effort. Nous nous sommes dit que nous, jeunes, devons maintenant matérialiser ce que nous avons l'habitude de chanter, hein, parce que nous chantons ça très souvent, mais c'est important aussi de mettre en pratique ce que nous disons dans notre hymne. Et aujourd'hui, cette activité, c'est pour montrer le rôle de la jeunesse. La jeunesse nationale, qu'est-ce qu'elle doit faire? Premièrement, nous avons besoin qu'elle prenne conscience de l'aspect global qu'est cette situation. Vous savez, tout commence par la prise de conscience. La prise de conscience résulte à beaucoup de choses. Aujourd'hui, un jeune du Lualaba, si je dois prendre ça comme exemple, s'il prend conscience qu'en fait, il y a des jeunes, il y a mes frères qui sont en train de souffrir. Je pense que ça va influencer sa façon d'agir, sa façon de penser. Aujourd'hui, nous avons plusieurs plateformes. Nous sommes jeunes, il faut bien qu'on utilise ce qui est mis à notre disposition. Notre voix peut être entendue de toutes les façons. Ce jeune du Lualaba que j'ai cité peut utiliser sa voix, peut utiliser son téléphone pour dénoncer. Ce jeune du Haut-Katanga peut dénoncer. Quand on parle de dénoncer, on ne voit pas vraiment le poids que ça a, mais la dénonciation a vraiment une très grande importance dans cela. Dénoncer ce qui se passe, agir pour l'intérêt général. Parce que ce n'est pas seulement une question de guerre. Nous sommes là pour prôner l'unité. Et c'est une dynamique que nous sommes en train de lancer dans le sens de demain, si ce jeune du Lualaba a un problème, moi, jeune du Sud Kivu, je serai concernée. Et si il y a quelque chose que je peux faire pour assister ce jeune du Lualaba, je le ferai. Le sens, en fait, de cette activité, c'est de montrer le rôle mobilisateur et le rôle d'acteur de la jeunesse congolaise sur la situation de l'Est de la RDC.
Donc vous avez besoin de cette mobilisation générale de la jeunesse à travers ne fût-ce que la voix. Lorsque quelqu'un dénonce, lorsque quelqu'un parle, ça a un impact important. Sur ce qui se passe dans la partie est du pays. Alors, du point de vue organisationnel, pensez-vous que vous allez avoir la capacité de recevoir? Parce que je m'imagine que beaucoup de jeunes qui vous suivent, et beaucoup de jeunes qui vont répondre à cette invitation, et lorsqu'ils arrivent, est-ce que vous avez prévu un lieu qui va recevoir une ribambelle ou beaucoup de gens par rapport à cette activité, Pascal?
Bien évidemment, pour recevoir, c'est vrai.
Ne me dites pas que ça sera au stade des martyrs.
Non, non. Vous savez, avec les réalités, c'est vrai qu'on ne peut pas. Il y a plusieurs jeunes, en tout cas, des déplacés, des gueurs. Il y a plusieurs jeunes qui ont quitté la ville de Goma, la ville de Bukavu, suite à ces événements. Mais on ne peut pas recevoir, on ne peut pas avoir une salle qui a la capacité d'accueillir tout le monde. Et nous pouvons passer par différentes représentations. Les jeunes des différentes communautés, les étudiants, que ce soit les jeunes des confessions religieuses. Donc c'est comme ça que nous allons donc procéder pour recevoir quand même les représentants des jeunes, des mouvements citoyens, des jeunes de la composante jeune de la société civile et tous ces jeunes-là, parlement des jeunes, toutes les structures, parce que nous sommes le conseil de la jeunesse, nous les accueillons et ensemble nous réfléchissons. On ne saura pas accueillir tout le monde, mais nous aurons quand même à recevoir les avis de toutes couches de la jeunesse au travers ces différentes représentations.
John, à votre tour aussi, comment évoluent les préparatifs de cette table ronde? Parce que le 27, c'est pour bientôt. Hein?
Nous ne dormons pas. On se bat du jour au jour pour la réalisation de cette activité. Mais j'aimerais aussi signaler qu'à part seulement cette activité, nous sommes aussi en mission de plaidoyer ici à Kinshasa, parce que vous savez, avec la situation humanitaire, que ce soit des jeunes et surtout les déplacés à l'est de la RDC, que ce soit les déplacés internes ou soit les déplacés externes, surtout à Bujumbura, qui demandent quand même une certaine assistance. Et nous, en tant que jeunes, nous avons observé tout ça et nous sommes dit de mener des plaidoyers ici à Kinshasa pour voir si nous pouvons avoir quelque chose d'assistance à apporter, surtout à cette couche de la population déplacée, que ce soit interne tout comme externe. En parlant de l'activité, vraiment, nous faisons de notre mieux pour que cette activité se passe mieux. Et pour ces côtés-là, nous, vous savez, nous sommes le conseil provincial de la jeunesse. Nous sommes en train de mobiliser et appeler au fait à l'intervention, mais aussi à la participation de tout le monde. Parce que il nous faut au fait une certaine contribution, que ça soit matériel, que ça soit technique, que ça soit physique. Nous voulons que cette activité ait lieu. Et nous, même en tant que conseil provincial, nous ne pouvons pas ici à Kinshasa. C'est un lieu qu'on ne maîtrise pas bien. Mais lorsque on est arrivé, nous étions en contact avec le Conseil national. On est entré en contact avec le Conseil national, mais aussi le Conseil provincial de la jeunesse d'ici à Kinshasa. C'est avec qui nous voulons travailler et mener et réaliser cette activité ensemble. Et donc, pour la réalisation de cette activité, ça demande l'implication de tout le monde. Que ça soit des jeunes qui vont participer, que ça soit des autorités qui peuvent aussi participer d'une manière ou d'une autre par rapport à l'urgence des soutiens, ça dépend. Nous sommes là, nous sommes ouverts et on toque par-ci par-là pour voir si nous pouvons réaliser cette activité. Et nous savons mieux que nous allons réaliser cette activité avec l'appui de tout le monde et la participation de toute la jeunesse.
Rapidement, vous avez parlé des plaidoyers. Vous les menez auprès de qui, par exemple? Notamment la situation humanitaire du Sud Kivu.
Pour la situation humanitaire, vous savez, nous avons d'abord des notables du Sud Kivu. À part seulement les notables, nous avons des autorités nationales parce que c'est ici où il y a l'exécutif. Mm-hmm. Bien sûr, on nous parle que non, le pays est décentralisé, mais si vous voyez bien, bien, si vous essayez un peu de vouloir savoir, vous allez voir que tout se décide ici à Kinshasa. Et des plaidoyers, on les fait, on les mène auprès des autorités. Mais aussi, nous sommes une organisation para-étatique. Et comme très souvent, nous sommes en contact avec les organisations humanitaires. Ici, on a eu à parler et aussi à échanger avec l'ambassade de France. Mm-hmm. Nous essayons aussi de rencontrer aussi certaines organisations.
Président, vous avez ajouté
concernant les différents plaidoyers. Mm-hmm. Étant donné, vous le savez, ça demande d'abord des besoins humanitaire, mmh. l'assistance humanitaire. Et c'est là que le conseil de la jeunesse du Sud Kivu est entré en contact avec le conseil national, notre hiérarchie, mmh. et le conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa pour voir comment, parce que nous ne sommes pas dans notre zone de travail. Et c'est comme ça que nous sommes en train de rencontrer différentes autorités politico-administratives et humanitaires dans le cadre de nos différents plaidoyers. Et c'est comme ça que vous pouvez voir, nous avons besoin, par exemple, pour l'organisation des différentes activités, ça ne va pas s'arrêter à Kinshasa, mais la réalisation va continuer au niveau provincial. C'est avec l'appui et l'accompagnement de différentes organisations et services comme le Fonarev, le CICR, d'ailleurs, qui nous a toujours assistés. En termes d'organisation d'activités en premier secours, nous avons déjà travaillé avec le CICR et d'autres activités maintenant, en ce qui concerne en tout cas l'assistance humanitaire et psychologique. Nous sommes en train de vouloir appeler tout le monde en tout cas à se joindre, à entendre la voix de la jeunesse du Sud Kivu. Nous sommes ici présents et c'est pour une mission bien précise. Pour arriver à cette fin, nous pensons que, avec la grâce de Dieu, avec l'accompagnement et les prières de tout le monde, nous arriverons à réaliser et atteindre notre objectif. Nous sommes, comme je l'ai dit au début, la jeunesse, et nous sommes censés trouver la solution aux différents problèmes auxquels nous faisons face.
Dieu merci. Rapidement, quelles sont vos attentes à l'issue de cette activité, de cette table ronde, du point de vue entrepreneurial? Et qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes qui ne sont pas du Sud Kivu, mais des jeunes entrepreneurs d'autres provinces qui vont justement prendre part à cette table ronde?
Voilà, merci beaucoup. Premièrement, je dois d'abord dire que lors de l'activité, nous aurons à présenter notre plan opérationnel post-conflit. Et dans ce plan opérationnel post-conflit, nous avons parlé également, nous avons intégré l'entrepreneuriat des jeunes. Et ça va commencer de manière progressive selon les territoires du site qui vous seront en train d'être libérés. Et nous allons commencer à ouvrir. Mes attentes, c'est que je m'attends à ce que le plan opérationnel puisse trouver en tout cas des bailleurs de fonds, surtout la partie des jeunes entrepreneurs, avoir des financements, des accompagnements, et donc en termes moraux, de formation entrepreneuriale. Et je pense que d'autres jeunes entrepreneurs du pays qui vont y prendre part, ils vont également avoir beaucoup d'expérience. Je voulais également signaler ici, parce que nous parlons de l'entrepreneuriat, nous avons eu entré en contact avec la fondation Labora, qui est une fondation qui accompagne le jeune, surtout en métier, la formation et tout ce qui va avec. Et c'est la formation qui est sous le leadership du chef Laurent Mugisho Bagaya. Et nous lui disons d'abord merci parce qu'il nous a promis qu'il va accompagner les jeunes entrepreneurs de la province du Sud Kivu. Et c'est pas pour la première fois qu'il le fait. Il l'avait fait avec les étudiants de l'université officielle de Bukavu, mais également c'est de la fédération des jeunes visionnaires pour le développement à Bukavu. Et à Uvira, il a promis qu'il va accompagner les jeunes entrepreneurs. Il va voir dans quelle mesure il peut accompagner le centre de formation qui se trouve à Uvira, notamment le centre de formation de Kijaga. Et je pense que, en tout cas, dès notre retour, ces jeunes entrepreneurs qui attendaient faire des formations, donc, et pratiquaient directement, qui vont se voir être outillés dès notre arrivée, voilà, à Uvira. En tout cas, nous le disons, en tout cas, très sincère merci. Il nous a également promis qu'il va nous accompagner dans notre projet de psychose sociale parce qu'il y a eu beaucoup de psychoses dans la tête des jeunes, surtout les jeunes filles qui sont en Uvira, les jeunes mamans. On va essayer de voir dans quelle mesure former, de formater, qui seront en train de former et de parler à ces jeunes filles, ces jeunes mamans qui ont été troublées pendant la situation de guerre que nous avons connue. Voilà un peu, quelques peu de mots que je voulais ajouter.
Kukapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Nous sommes presque à la fin de notre émission. Pascal Ntambuka, quel est votre message à tous les jeunes, mais aussi à toutes les autorités du pays, par rapport à la situation du Sud Kivu, mais aussi par rapport à la situation générale de la jeunesse du pays?
Le message que j'ai à lancer pour la jeunesse de la province du Sud Kivu, c'est de nous appeler d'abord à toujours manifester, à montrer notre unité. C'est dans l'unité qu'on arrive à combattre ensemble, c'est dans l'unité qu'on arrive à la victoire. Être divisé ne peut pas nous amener à une solution, mais plutôt ça peut pérenniser la division. Mais je pense que au travers notre unité, nos efforts fournis ensemble, nous pouvons arriver à atteindre les objectifs que nous souhaitons tous. Parce que personne ne peut vouloir vivre dans une situation d'insécurité, dans une situation instable. Chacun veut reprendre normalement ses activités, chacun veut vivre de manière pacifique, et c'est comme ça que nous jeunes, c'est nous en tout cas que les regards, tous les projecteurs sont tournés vers nous. Alors c'est comme ça que nous devons nous mettre ensemble pour savoir que c'est notre pays, c'est notre génération qui est en train maintenant de prendre place, et nous devons savoir que la division ne nous amène nulle part. Voilà pourquoi c'est un message de paix, c'est un message en tout cas, encore une fois, d'espoir, de la résilience. Parce que c'est, comme l'a dit la vice-présidente, dans les moments difficiles, on reconnaît des grands hommes. Nous avons survécu, nous avons vécu et vaincu surtout cette situation. Et voilà que nous arriverons maintenant à comprendre, voilà, quand telle chose arrive, comment faut-il déjà intervenir au préalable? Comme il est dit, vaut mieux prévenir que guérir. J'appelle donc les jeunes, soyons unis, construisons ensemble, c'est notre avenir, c'est notre pays. Soyons tous unis pour contribuer au rétablissement de la paix. Merci.
Sanela Mbenga et Congo, votre message à toutes les jeunes filles, mais aussi aux autorités par rapport notamment à l'activité qui vous organisez.
Le message que je donnerai aux jeunes filles, mais vous savez, je préfère donner à la jeunesse.
Hein? À la jeunesse, oui, oui. Très bien. La jeunesse de manière générale, oui, oui. Mais les jeunes filles en particulier.
En particulier.
Très bien.
Donc le message que je transmettrai, c'est un message de mobilisation. C'est un message mobilisateur. Vous savez, nous sommes la génération qui est née, qui a grandi dans la guerre. Mais je voudrais, et je sais, je préfère affirmer que nous serons cette génération qui mettra fin à cette guerre. Donc c'est important de comprendre le rôle qu'on a à jouer, et c'est encore plus important de se capaciter pour assurer ce rôle-là. Donc j'appelle la jeunesse congolaise, j'appelle les jeunes femmes congolaises à se capaciter, à acquérir des compétences nécessaires pour assurer le rôle que nous avons à jouer dans ce pays. Le message que je transmettrai aux autorités, c'est d'inclure, de reconnaître d'abord le rôle de la jeunesse dans tout ce qui est relatif au développement de notre pays, aussi bien dans le domaine socio-économique, politique, communautaire, de reconnaître le rôle de la jeunesse et de l'accompagner.
D'où la nécessité de participer à la table ronde du 27 février.
Oui, oui.
John Kabunderoy, votre message en quelques secondes, rapidement.
Ça, c'est beaucoup plus lancer un appel à la résistance, à la résilience aussi dans les zones occupées. Aussi lancer un appel aux jeunes, surtout à multiplier beaucoup plus la vigilance, parce que nous sommes toujours, la menace est toujours là. Et nous devons beaucoup plus multiplier sur la vigilance, mais aussi l'appel au patriotisme. J'appelle aussi aux jeunes aussi de faire confiance aux efforts diplomatiques du chef de l'État, parce que bientôt là, nous serons dans la paix, nous serons tous unis.
Dieu merci.
Ce que je voulais dire, surtout aux jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils doivent comprendre que le grand homme se forme pendant des moments difficiles. Ce message est adressé plus particulièrement aux jeunes qui sont dans des zones occupées, à Bukavu, à Goma, détenus en tout cas faux, et surtout aux jeunes entrepreneurs de ne pas baisser le bras et de continuer à se former, à s'outiller, mais également à produire localement en fait de voir si nos familles qui sont de l'autre côté vont continuer à survivre. Voilà un peu, je pense que d'un moment à l'autre, nous allons encore une fois nous retrouver.
Le rendez-vous est pris pour le 27 février à Kinshasa. Pascal Ntambuka, Sanela Mbenga et Congo, John Kabonderwa, Dieu merci Boudjiriri. Merci d'être passé dans l'émission 100% jeunes, c'est votre émission.
Merci beaucoup, aussi. Merci à la jeunesse du site Kivu. Très bientôt, nous serons encore ensemble. Merci.
Ainsi s'achève ce numéro de votre magazine 100% jeune. Merci à nos invités ainsi qu'à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Mise en onde, Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa. Coordination et présentation, grâce à Mzati Masanzi, sous la supervision de Jean-Marc Matoaki, mon félélé Dijano. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Radio Kapi, la radio de la paix.